RFI 8h44 ici à Paris. Et c'est un événement dont le nom signifie jour nouveau chaque 21 mars, chaque équinoxe de printemps, la fête de Nowruz, célébrée par plus de 300 millions de personnes à travers le monde, et notamment par les Kurdes, dont c'est le nouvel an pour les Kurdes qui soutiennent par ailleurs le parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK. C'est chaque année l'occasion de se rendre dans les montagnes du Kurdistan irakien où la guérilla s'est réfugiée. Ils n'ont pas dérogé à la tradition le week-end dernier, mais dans un contexte bien particulier. Alors qu'il y a quelques semaines, un processus de paix s'est engagé entre le mouvement kurde et l'État turc. Les familles rendant visite à leurs proches insurgés l'ont donc fait cette année avec l'espoir de les voir revenir bientôt peut-être à la vie civile. Reportage à Kandil, Lucas Lazo.
L'espace d'une nuit de danse, de musique et de discours, les partisans du PKK se réunissent pour célébrer Nowruz, le nouvel an kurde. Une fois par an, la guérilla leur ouvre ses portes dans son bastion des montagnes de Kandil au nord de l'Irak. Pour les familles des insurgés, c'est aussi l'occasion d'un discret pèlerinage, à l'image de Shaya dont la fille est morte au combat en 2006.
Je suis venue fêter Nowruz à Kandil pour sentir le parfum de ma fille, Zilan, et de tous ses camarades qui sont morts pour la liberté des Kurdes.
Protégée par des cimes escarpées qui s'élèvent à plus de 3000 mètres, la plaine de Kandil est une forteresse naturelle. C'est ici que le PKK a installé ses quartiers généraux dans les années 90, ainsi que les académies militaires et politiques au sein desquelles les aspirants combattants se forment à la guérilla.
Kandil, c'est un endroit très spécial et on sait que nos enfants sont tous passés par ici, au cœur de la révolution. Zilan a vécu presque un an à Kandil. Ces arbres qui nous entourent nous rappellent nos enfants. Ils ont poussé sous leurs pieds et ont été arrosés par leur sang.
De nombreux combattants du PKK sont tombés à Kandil, constamment bombardés par les drones de la Turquie. Leurs portraits juvéniles sont exposés au regard le long de la route qui serpente dans la montagne et devant lesquelles des familles viennent se recueillir. D'autres sont à la recherche d'informations.
La plupart des mamans viennent à Kandil pour Nowruz avec l'espoir d'apercevoir leurs enfants. Or, c'est possible qu'ils soient déjà morts, mais qu'elles ne le savent pas encore.
En marge des festivités, des femmes, le visage recouvert d'un voile blanc, arrêtent un homme à l'allure d'officier et font défiler des photos sur leur téléphone. Trois enfants d'Amina sont déjà morts dans les rangs du PKK et deux de ses filles sont toujours mobilisées. La maman est inquiète.
Je n'ai pas de nouvelles de mes filles. Je ne les ai pas vues ici. Je ne sais pas où elles sont. J'espère qu'elles sont vivantes.
Les règles du PKK sont particulièrement strictes et les contacts avec les familles prohibés. À l'abri dans sa tente battue par la pluie, Fatima a eu plus de chance et peut se réjouir.
Cette année, je suis venue à Kandil pour la première fois. Ça fait près de 20 ans que je n'avais pas vu certains membres de ma famille. J'ai une fille ainsi que deux oncles qui se battent ici dans les montagnes. J'ai pu les voir aujourd'hui. C'était formidable de pouvoir leur parler, ils m'ont tellement manqué. Je leur souhaite d'être libres bientôt.
Sur la scène principale, les discours politiques s'enchaînent. Cette année, le nouvel an kurde s'inscrit sous le signe des négociations de paix engagées entre la guérilla du PKK et la Turquie.
Je souhaite que les prisonniers soient libérés et que nous puissions rentrer chez nous, parce que nous sommes des réfugiés ici, au Kurdistan irakien.
C'est dans l'exil que les enfants de Fatima ont emprunté les sentiers de la guérilla, et c'est ici dans les montagnes de Kandil que seront discutés ces prochains mois les détails du processus de paix par les chefs du PKK. Lucas Lazo, de retour de Kandil, RFI.
Notre reportage international au Kurdistan irakien à retrouver sur RFI.fr et notre application Pure Radio.
RFI, toute l'actualité, Julien Coquel-Rohen.
Et à la une ce matin, cette démonstration de force de l'opposition hier à Istanbul, une manifestation en soutien au maire emprisonné Ekrem İmamoğlu, plus de 2 200 000 personnes dans les rues selon son parti, le CHP. La Turquie où les autorités confirment l'arrestation d'un journaliste suédois accusé de terrorisme et d'insultes au président. Rien à voir avec son travail, dit le gouvernement, qu'il accuse d'avoir pris part il y a 2 ans à une manifestation pro-kurde en Suède. 12 journalistes turcs ont été arrêtés depuis le début des manifestations. Un journaliste de la BBC a aussi été expulsé. 2 jours après le séisme en Asie du Sud-Est, 17 morts en Thaïlande et un bilan très lourd en Birmanie. Plus de 1600 morts et 3400 blessés selon la junte. Les secours internationaux commencent à arriver et les rebelles birmans annoncent une trêve pour faciliter l'acheminement de l'aide. Et puis en Syrie, un nouveau gouvernement sans premier ministre. Le président par intérim Ahmad al-Sharré a nommé hier 23 ministres, dont une femme chrétienne, dans une équipe décrite comme inclusive. Ce sont malgré tout ses proches qui conservent les principaux postes, notamment ceux de la défense, de l'intérieur et des affaires étrangères. Et elle nous présente ses têtes d'affiche chaque dimanche sur RFI. Les parcours de celles et ceux qui innovent et entreprennent sur le continent africain. Denise Epoté de TV5 Monde est au téléphone de Simon Bourtembourg.
Les têtes d'affiche de Denise Epoté. Bonjour Denise.
Bonjour Simon.
Et ce dimanche, votre première tête d'affiche est originaire du Tchad. Diplômée des universités de Yaoundé et de l'Aube Nouvelle à Ouagadougou, Mario Nderengue Djirai Bai possède un Master 2 en sciences de l'environnement ainsi qu'un diplôme d'ingénieur de travaux en génie électrique, spécialisation électricité industrielle. Eh bien Denise, en 2023, il a créé G2E Muntara, une start-up qui développe des solutions énergétiques.
Sur un continent où l'accès à l'énergie reste un défi majeur, en créant G2E Muntara, Mario Nderengue Djirai Bai voulait contribuer au développement durable du Tchad en combinant innovation technologique et impact social. La start-up développe des solutions énergétiques adaptées au contexte local, telles que des foyers améliorés pour réduire la consommation de combustibles polluants et des séchoirs solaires pour limiter les pertes post-récolte. L'intégration de technologies numériques avancées a permis de surveiller en temps réel la performance des solutions déployées, améliorant ainsi leur impact environnemental et économique. Autre développement de G2E, la conception de panneaux solaires équipés de microprocesseurs afin d'optimiser l'absorption d'énergie en fonction de l'ensoleillement. Cela a permis de réduire les coûts pour les ménages et d'assurer une alimentation plus stable, tout en contribuant à la création d'emplois et à la sensibilisation des communautés à l'importance de la transition énergétique. Mario Nderengue Djirai Bai a reçu les prix PNUD Tchad et Tony Elumelu pour son engagement entrepreneurial.
Et votre seconde tête d'affiche est elle originaire du Rwanda. Eugène Rwagasore possède une licence en informatique obtenue à l'Institut des sciences et technologies de Kigali. Il est donc cofondateur de Pindo, une start-up qui facilite l'accessibilité numérique. Denise, Pindo travaille dans le domaine de la communication en Afrique, et ce grâce à l'intelligence artificielle vocale pour ceux qui ont des compétences limitées en lecture.
En swahili, Pindo signifie « bord » ou « périphérie ». En référence à ces millions de personnes qui ne savent ni lire ni écrire. La solution d'intelligence artificielle vocale inclusive, conçue par Rémi Mouiré et Eugène Rwagasore, permet à chacun, quel que soit son niveau d'alphabétisation, de se connecter ou d'accéder à l'information et de participer pleinement au monde numérique. Au lancement en 2022, Pindo proposait des messages transactionnels automatisés tels que les notifications bancaires. En tirant parti de l'intelligence artificielle, les cofondateurs ont développé la synthèse et la reconnaissance vocale, mais également la reconnaissance d'intention, afin de rendre les services numériques inclusifs et accessibles par la parole. L'innovation est disponible au Rwanda, en Ouganda et au Kenya, où les textes écrits sont convertis en Kinyarwanda, en Swahili et en Ouganda, avec l'ambition d'être une référence en Afrique de l'Est. Pindo s'adresse également aux entreprises et leur permet d'interagir avec leurs clients. Eugène Rwagasore et Rémi Mouiré ont bénéficié du soutien financier de Google for Black Founders et de Develop, relevant du ministère allemand de l'économie, de la coopération et du développement, qui salue les avancées obtenues en intelligence artificielle vocale par la jeune start-up rwandaise.
Les têtes d'affiche de Denise Epoté. Merci Denise et bonne journée.
Denise Epoté avec Simon Bourtembourg. Et dans notre reportage Afrique, cap à nouveau ce matin sur le Gabon et sur les traces d'une icône de la lutte contre les colons, le guerrier Wongo qui dans les années 20 mena une révolte du peuple Awanji dans la région de l'Astourville dans le centre du pays. Une figure patriotique aujourd'hui honorée par les militaires au pouvoir et par les autorités de la transition. Reportage François Mazet.
Actuellement emballé dans l'attente de sa réhabilitation, voilà 20 ans que la statue du guerrier Wongo armée de son fusil trône sur le rond-point de la mairie de l'Astourville. Il y a près d'un siècle, c'est sur les collines, à une trentaine de kilomètres, que ce notable fédérait les Awanji contre l'administration coloniale, qui exigeait, en plus des taxes, des livraisons obligatoires au marché de la ville. Enseignant originaire de la région, comme la présidente du Sénat, Paulette Mitsambo, dont il est le collaborateur, Jean-Paul Thierry a travaillé sur l'histoire de Wongo.
Il a été taxé d'indiscipliné, et c'est comme ça que l'administration coloniale avait ordonné son arrestation. Et c'est comme ça que lui s'est organisé précipitamment avec les gens qui étaient autour de lui. Il a construit une armée, résisté contre l'administration coloniale. Il a été inventif. Il était presque quelqu'un d'invisible en fait.
Pendant un an et demi, les rebelles tiennent la dragée haute aux troupes coloniales. Ils creusent des tranchées, emploient des méthodes de guérilla, utilisent les grottes comme cache. Ulrich Schulz-Bavekumbu, originaire du même village, nous mène à celle de Ngongourouma, dans une zone inexpugnable.
C'est d'abord un lieu très caché. C'est un bunker naturel qui servait d'abri à la famille, la descendance. Et lors de la guerre de Wongo, les familles se sont réfugiées dans ces grottes-là parce qu'on trouvait l'alimentation pour se nourrir.
La répression est brutale. Wongo finit par se rendre en août 1929. Il meurt lors de sa déportation vers Bangui. En mai 2024, le général Oligui Nguema vient à Lastourville lui rendre hommage et promettre la rénovation de la statue. Un motif de fierté pour Jean-Paul Thiry.
Parce qu'il symbolise toute une région, tout un pays, et que nous sommes fiers d'avoir pu immortaliser Wongo de par cette stèle. Il y a eu effectivement des ouvrages là-dessus. Et que l'histoire de Wongo a été comptée pour les plus jeunes. Ce qu'on souhaite à travers, par exemple, cette statue, c'est pour perpétuer cette figure-là, cette figure emblématique.
Mais la mise en avant du guerrier Wongo n'est pas neutre. Le sociologue Joseph Tonda y voit un moyen pour le chef de la transition de revendiquer une filiation.
Cet épisode est très intéressant parce qu'il renvoie au schéma de pensée selon lequel nous ne sommes pas des nuls. On a lutté pour sauvegarder notre identité, défendre notre culture. La deuxième dimension, c'est l'identification au héros. Donc c'est lui.
Plusieurs organisations gabonaises appellent à une réappropriation de l'histoire et à la mise en valeur de figures de résistance. Comme Wongo ou Eman Tolé en Pays Fan. François Mazet de retour de Lastourville, RFI.
Notre reportage Afrique au Gabon, il est 7h55 à Libreville. Bientôt 8h en temps universel et avant le prochain journal, c'est l'heure de 100% création à la veille du début des Journées européennes des métiers d'art. Une occasion unique dans les pays qui l'organisent de rencontrer des artisans passionnés, de comprendre leurs techniques et de se plonger dans leur univers. Nous partons ce matin au Musevert, dédié au verre et à son histoire dans le nord de la France. Rencontre avec Sofiane Msadek au micro de Maria Afonso.
J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer.
J'ai toujours été touche à tout et quand j'ai vu le premier cueillage, donc première prise de matière dans le four, pour le verre c'était, mais bah, je devais être là à ce moment-là.
Sofiane Msadek, artisan verrier et souffleur de verre.
En tant qu'artiste, j'aime beaucoup faire par moi-même. Là, pour le verre, c'est très particulier, il faut vraiment de la technique. Ma spécialité, c'est le soufflage à la canne.
Sofiane Msadek, artiste verrier, est née à Paris et a grandi en banlieue parisienne. Après avoir obtenu son baccalauréat, il s'oriente vers des études de cinéma et découvre l'art vidéo. Ce coup de cœur l'amène à la Haute École des Arts du Rhin à Strasbourg, où il s'initie au travail du verre. Passionné par la gestuelle et la chaleur de cet élément, Sofiane Msadek développe son propre style artistique. Actuellement installé à Nantes, il travaille dans un atelier tout en menant des projets personnels et des résidences artistiques comme celle du Musevert, dans le nord de la France, dédiée à l'histoire du verre. La technique de soufflage à la canne est au cœur de son travail. La chaleur du four, la fragilité du verre envoûtent et fascinent Sofiane Msadek.
Il faut être concentré. Tu prends la canne, même si elle dure 5 heures la pièce, ton esprit est que là pendant 5 heures. Les petites pensées parasites et tout ça, on peut louper la pièce. C'est assez intense niveau concentration. Il y a la matière donc, qu'on a au bout de la canne, mais aussi bah, les gens avec qui on travaille. On peut avoir un assistant ou une assistante, plusieurs, mais celui qui est sur le banc reste le chef d'orchestre. Il va donner les indications, quand il faut souffler, comment il faut chauffer. Donc on gère un peu tout en même temps. À force de travailler avec la même personne, il y a aussi une complicité qui se met en place et sans parler, on sait ce qu'on doit faire, avec aussi l'expérience de la matière.
Le verre est pour cet artiste une matière aussi fantastique que fascinante qui l'invite à l'échange.
C'est une discussion. Hein. Tout le monde le voit de manière fragile, mais il peut être aussi très dur. On peut avoir de la légèreté, il peut être fragile, mais avoir une pérennité dans le temps aussi. En un instant, la pièce peut disparaître. C'est un mélange de tout qui m'intrigue un peu. Et ouais, je crois que cette matière est quand même assez magique. Techniquement, j'ai autant envie de réussir à faire un gobelet que faire une pièce d'art ou une installation. C'est ça qui est intéressant avec cette matière, c'est que c'est un panel hyper large de possibilités.
Retrouvez l'univers de Sofiane Msadek sur RFI.fr, chronique 100% création, et en podcast sur RFI Pure Radio.
Maria Afonso pour 100% création chaque dimanche sur RFI, et bientôt 7h en temps universel sur la radio du monde, le journal dans une minute. A tout de suite.
Afrique, mémoire d'un continent, avec Elgas.
Je vous amène à Ouida, au Bénin, pour vous raconter l'histoire des Agouda, cette communauté afro-brésilienne composée de descendants d'esclaves et de négriers. Conflits sourds, cohabitations bourreaux-victimes, questions foncières, héritages architecturaux, voyages sur les routes de l'esclave et ses mémoires douloureuses.
Afrique, mémoire d'un continent, tout à l'heure à 8h10 TU, sur RFI.
Géopolitique.
L'Europe fait face à une situation géopolitique inédite, marquée par l'incertitude entourant la politique américaine et l'agressivité russe. La guerre en Ukraine a poussé les Européens à renforcer leur capacité de défense. L'inquiétude prédomine désormais en Europe face aux bouleversements mondiaux. L'économiste et géopolitologue Thierry de Montbrial nous livre son regard dans Géopolitique avec Marie-France Chatin, tout à l'heure à 18h41.
RFI.